Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi.
RTL.
Il est 5h, Paris.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
C'est vrai. Paris.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est vrai qu'à Paris, on peut manger à n'importe quelle heure. Et ça, c'est assez sympa. À l'heure de la prolifération des fast-foods, des faux bistrots, des restos sans âme, des produits trop industrialisés, à l'heure du label plus que douteux du fait maison qu'arbore fièrement et souvent malhonnêtement, je trouve, de nombreuses devantures de restaurants, on va se faire du bien et on va visiter Paris et son histoire à travers ces bonnes tables populaires ou chic d'ailleurs. C'est le voyage délicieux que nous offre notre invité. Bonsoir Jean-Claude Ribaud.
Bonsoir.
Vous avez été la plume, l'estomac, les papilles du journal Le Monde pendant 20 ans, chroniqueur gastronomique, c'est un peu comme critique gastro ?
Pas tout à fait. Je considère, moi, qui à l'origine n'était pas véritablement journaliste, puisque je suis architecte, la chronique permet une plus grande liberté de, à la fois de ton et de référence, en l'occurrence littéraire, culturel, historique, architectural en ce qui me concerne évidemment, si bien que ce voyage est une balade dans le temps et dans l'espace, dans Paris, au cours de hasard, de pérégrination, de choix.
Vous étiez architecte et vous êtes devenu chroniqueur gastronomique. Comment ça se fait le lien ?
C'est la même chose.
Les belles assiettes.
C'est une question d'harmonie, de goût personnel et puis de culture, puis un peu d'origine familiale aussi, qui fait qu'on est plutôt orienté vers les bons produits et vers les bonnes choses que vers le neutre ou l'anonyme.
C'était quoi votre patte à vous dans le journal Le Monde quand vous étiez chroniqueur gastronomique ? C'était quoi votre personnalité, Jean-Claude Ribaud ?
Voilà. c'était bon plutôt de faire partager mes bonheurs d'estomac et mes plaisirs que mes aigreurs.
Et vous en avez eu pourtant, j'imagine.
Oui, bien sûr, oui, régulièrement, mais en même temps, c'est tellement plus facile dans le fond et de critiquer que d'essayer de chercher le fil, le lien, le bon produit, la bonne technique, le chef honnête du médiocre ou du margoulin, ça arrive aussi.
Mmh. Donc vous reteniez de dire du mal ou de temps en temps quand même ça sortait
du tout. Ah oui, non, ça sortait assez régulièrement. oui, tout à fait. J'ai mené même des bagarres, des combats un peu sérieux contre la cuisine moléculaire, par exemple, que je n'ai jamais apprécié. Et pourtant, je suis allé aux sources, n'est-ce pas, sur l'Olympe, qui était
faire à l'Adria,
bien sûr,
à Barcelone,
pas de la caisse. Donc, ce sont des choses. Bon,
on va en parler de cette cuisine moléculaire.
Le goût, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Je crois que il faut toujours citer Spinoza dans ce domaine. Nous n'aimons pas les choses parce qu'elles sont bonnes. Elles sont bonnes parce que nous les aimons. Donc ça rend très modeste.
Ouais, tout effectivement. Ça. Comment ça commence ce voyage à travers Paris et sa gastronomie ? C'est un hasard ?
Au début, ça a commencé par une très modeste chronique que j'avais dans un journal du bâtiment, qui était assez logique compte tenu de mes activités initiales.
D'architecte ?
Oui, qui s'appelle le Moniteur des Travaux Publics. Alors, dès le début des années 80, je faisais une petite chronique pour rendre ce canard un peu moins triste, sinistre, qui était, bon, les marchés, les techniques du bâtiment, etc. Et je signais à l'origine sous un pseudonyme tout à fait hermétique, qui était Akratos, ce qui en grec veut dire celui qui ne met pas d'eau dans son vin. Mais c'était déjà une indication. Voilà. Bon. Et puis, et c'est là que j'ai commencé. Bon, je faisais un papier sur ce qu'aiment les gens du bâtiment, c'est-à-dire des choses assez solides, assez sérieuses. Donc ça m'a petit à petit formé pendant une dizaine d'années. Et puis un jour, par les hasards de connaissances, de contacts, etc., le chroniqueur du Monde, La Reynière, étant malade, on m'a demandé de faire un remplacement. Puis ce remplacement s'est transformé petit à petit en une activité, une chronique régulière, sans que j'ai vraiment sollicité quelque chose de précis ou été candidat.
Le destin
et le talent, parce que si les chroniques avaient été mal écrites, vous ne seriez pas resté.
Mais ça, c'est Stendhal qui répond la question, une vocation, c'est d'avoir son métier pour passion, voilà.
Vous publiez Voyage d'un gourmet à Paris chez Calman Lévy, c'est quoi un gourmet, tiens ?
Alors un gourmet, c'est pas nécessairement un gourmand, c'est quelqu'un qui apprécie ce qu'il mange ou qui recherche particulièrement des choses, alors que le gourmand fera feu de tout bois et c'est la
il
quantité.
Il va se baffrer.
Oui, bon, ça m'est arrivé aussi, ne vous inquiétez pas, mais souvent, plus souvent qu'à mon tour. Mais le gourmet est quand même plus nuancé, plus délicat, il fait attention à ce qu'il mange et d'où ça vient.
Alors rentrons dans le vif du sujet maintenant. Est-ce que Paris, Jean-Claude Ribaud, a encore de quoi régaler les gourmets ?
Évidemment, la critique qui est faite... au nom de, on ne sait trop quel...
Faut dire qu'on mange souvent mal, moi je trouve, à Paris.
Oui, bien sûr.
Et pour très cher en plus.
Oui, alors il faut chercher, il faut... Ça n'est pas, et l'objet de mon livre, c'est plutôt de donner les bonnes indications. Car effectivement, il est assez délicat de se balader, d'aller au hasard. Et vous savez, c'est la même chose dans un pays que j'aime beaucoup d'ailleurs en plus, et dont j'aime la cuisine, qui est l'Italie. On ne va pas en Italie n'importe où non plus. Il faut être un peu initié, chercher... attentif, et c'est dans la mesure où il s'agit d'une activité économique, il y a les bons, les moins bons, les mauvais.
Vous pensez quoi du label fait maison, Jean-Claude Ribaud ?
Moins de mal que ce que... C'est-à-dire que, on verra l'usage. C'est à partir du 1er janvier qu'il est obligatoire et qu'il y aura des contrôles. Si les contrôles sont faits sérieusement peut-être pas systématiquement, mais je pense que ça donne au moins conscience aux restaurateurs qu'ils ont une responsabilité dans ce qu'ils servent à leurs clients. Et ça, rien que ça, c'est pas une mauvaise chose.
Avec vous, Jean-Claude Ribaud, on va se réconcilier avec les bonnes tables et la bonne gastronomie à travers votre voyage de gourmet. C'est dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Toujours avec vous. Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
À table, c'est ce qu'on vient de dire. On est curieux et gourmand.
Je mets pas les coudes.
Ce soir sur RTL. Curieux de découvrir les bonnes tables d'hier et d'aujourd'hui, de Paris, l'histoire de ces restaurants mythiques, de ces chefs. Pour ça, on est accompagné idéalement de Jean-Claude Ribaud, l'ancien chroniqueur gastronomique du journal Le Monde. Tiens, il y a votre fils Antoine, vous nous disiez ça, qui nous écoute depuis...
New York.
Depuis New York. Bon, il
RTL
peut nous...
à New York.
Et
salut.
Voilà, c'est génial. Salut Antoine. Et il peut même nous voir sur RTL.fr. Je voudrais qu'on revienne, mais très vite, sur cette histoire de fait maison. Quand un restaurateur récupère des produits et les assemble dans sa cuisine, il n'a pas le droit au label. On est bien d'accord.
Ça dépend dans quel état il les assemble. Le fait maison prévoit de s'appliquer à des produits bruts. Alors, les produits bruts, il y a toute une liste d'exceptions, bien sûr. Bon, les pâtes feuilletées, des choses comme ça, etc. On peut imaginer qu'ils les achètent, qu'ils les fassent faire par... Ça a été l'une des revendications, par exemple, de Yves Campdebord, qui disait, mais mon copain Mulot, à côté, fera mieux la pâte feuilletée que moi.
Mais ceux qui vont l'acheter chez Métro un grossiste bas de gamme.
Bah, ceci dit, chez Métro, il y a aussi de bonnes choses, mais...
il y a de bonnes choses aussi chez Métro.
Non, j'ai dit chez Métro ou chez un grossiste bas de gamme.
Ah, d'accord.
Ou chez un grossiste bas de gamme. Ça existe aussi. Si, absolument.
Monsieur Métro, tout va bien.
J'ai parlé vite.
Non, mais je crois que globalement, c'est une mesure qui n'est certes pas idéale. L'idéal dans ce domaine n'existe pas. Il faudrait qu'il y ait des professionnels absolument rigoureux, honnêtes, travailleurs, etc. Bon, on sait que les coûts de main-d'œuvre sont aussi une des causes de la désaffection de beaucoup de restaurateurs pour le travail sur des produits bruts.
Dans votre balade, dans votre voyage d'un gourmet dans Paris, on découvre qu'il y a une géographie finalement de la gastronomie parisienne.
Oui, je crois. Il y a des quartiers qui sont assez typés. Il y a les anciens villages, comme le 15e, Auteuil, les villages périphériques à une certaine époque, ceux qui étaient au-delà du mur des fermiers généraux, qui sont des endroits populaires où il y a encore des bistrots, des choses toutes simples. Dans le 11e, par exemple, sur les hauts lieux de la commune en 1971, il y a sur la rive gauche...
1871, mais c'est pas grave, on avait rectifié.
Pardon, 1871, oui, évidemment. Et il y a des bistrots dans le quartier de Plaisance, par exemple, au sud de Montparnasse, où jusqu'en 1924, il y avait des vignes encore. Hein. De l'autre côté de la coupole, il y avait un vignoble.
Et du coup, ça se sent dans la gastronomie du quartier, par exemple.
Oui, il y a des traces. Bon, il faut les chercher, mais il y a une espèce d'archéologie urbaine qui, il faut peut-être l'inventer un peu, mais moi, j'y trouve assez volontiers des résurgences, des souvenirs.
Alors, on découvre que le restaurant est une invention parisienne. Jean-Claude Ribaud, c'est vrai?
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Ça date de quand?
Ça date de un tout petit peu avant la Révolution, de 1789, cette fois-ci, je ne suis pas trompé de date. Il y avait dans l'ancienne France, sous la monarchie, des tables d'hôtes, des cabarets, des endroits où l'on buvait du vin, mais il y avait un plat unique. Il y avait pas de menu,
finalement.
Pas de menu. Le menu. Et au lendemain de la Révolution apparaît lorsque l'aristocratie émigre à Coblence essentiellement et que les chefs de ces grandes familles, de ces grandes maisons se retrouvent sur le pavé. Et ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent des restaurants. Alors restaurant, c'est un mot qui n'est traduit dans aucune langue. C'est un mot français qui est
universel,
absolument, aussi bien en anglais qu'en partout, restaurant. Et à l'origine, le mot est bouillon restaurant, au sens de c'est un bouillon qui restaure, qui est revigorant, qui est désaltérant, rafraîchissant. Bon, et petit à petit, bouillon disparaît. Alors il y a des lieux qui deviennent des bouillons, on les a appelés longtemps encore des bouillons. Il y a eu toute la série des bouillons Duval, il y en a quelques-uns qui restent encore à Paris, bouillon Chartier par exemple, et qui sont eux plutôt de la fin du 19e siècle, mais le mot restaurant s'applique alors désormais à partir de 1802-1803 à toute une série de lieux, et il y en a 3000 je crois vers 1810 ou 1820, et puis beaucoup plus tout de suite. Donc c'est vraiment une création des lendemains de la Révolution.
Est-ce qu'il y a des grandes tables qui existent encore aujourd'hui à Paris qui ont traversé le temps?
Oui, il y en a une qui est extrêmement célèbre, qui avait failli disparaître d'ailleurs, mais qui est bien vivante aujourd'hui, c'est le Grand Véfour, qui est au Palais Royal.
Oui.
Car c'est au Palais Royal que tout ça s'est passé, autour du Palais Royal et au Palais Royal même. Mmh. C'était un lieu assez particulier, puisque c'est une opération immobilière, hein, le Palais Royal, sur le fondement du Palais Cardinal, à l'origine, construit par Richelieu. Et la construction des arcades que l'on connaît aujourd'hui, autour du jardin, date de 1780, vous voyez, c'est concomitant. Et c'était dévolu à la famille d'Orléans. Et la famille d'Orléans avait autorité sur le jardin et les arcades, et ont vendu des appartements qui ont été occupés alors historiquement par des tas de gens, en particulier Jean Cocteau, Colette, etc. Et ce palais royal, dans le fond, était un lieu de liberté. La police n'avait pas le droit d'y entrer. C'est pour ça que Camille Desmoulins, lorsqu'il lance le 12 juillet son fameux appel au peuple, le fait depuis le café de foie qui était dans le Palais Royal.
Tout a commencé dans ce quartier du Palais Royal, la gastronomie française, les restaurants, ce mot universel. On continue de faire les gourmets dans les rues de Paris d'hier et d'aujourd'hui dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
À Paris,
à table,
avec RTL.
La plus belle ville du monde.
En sortant du bistrot, j'ai dit cette fois j'y vais.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
On est sorti du resto, 4 heures après.
20h, 22h.
Paris by night, au hasard de la nuit. Qui nous prend par la main et nous laisse au matin.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Benabar qui chante les bonheurs des dîners parisiens dans un bon bistrot. Thomas, vous aimez bien ça aussi parfois?
Non, absolument pas, jamais.
Vous sortez pas votre petite écharpe de temps en temps?
J'adore ça, j'adore. Fromage, vin rouge et du bon pain, voilà, ouais, ça j'adore
ça,
par exemple.
On peut le faire partout en France, même chez soi, et c'est ça qui est très sympa. Nous sommes en train de visiter Paris à travers son histoire et ses bonnes tables. C'est un voyage délicieux évidemment que nous offre notre invité Jean-Claude Ribaud, qui est l'ancien critique, chroniqueur gastronomique du journal Le Monde. Vous êtes aussi l'auteur du Voyage d'un gourmet à Paris aux éditions Calman Névy. Avec vous, justement, on découvre ce Paris mythique, ce Paris ancien, ces restaurants qui sont nés il y a des décennies, et voire même des siècles, et qui tiennent toujours la route aujourd'hui. Notamment le Grand Véfour, il est né en 1780
tout à fait.
Quelle est son histoire?
C'est une histoire assez longue, d'abord. Au début, ce n'était sans doute pas le meilleur restaurant du quartier, mais il a été assez joliment décoré. Son décor actuel date de 1840 à peu près.
C'est le propriétaire, c'est Jean Véfour, c'est ça hein?
Voilà, ça a été au début, ça s'appelait le Café de Chartres, parce que le duc de Chartres était un des fils de Philippe Égalité, je crois, et donc il y avait les trois rues de Montpensier, Chartres et de Beaujolais, non pas du Beaujolais, qui étaient des titres nobiliaires. Et donc ce Café de Chartres a reçu les révolutionnaires et puis tout le monde, et puis Victor Hugo y a dîné le soir de Dernani. De son succès, et Napoléon, bien sûr, Joséphine, etc. Enfin, tout le 19e siècle est passé. Et puis, vers 1905, il a un peu périclité et il a été fermé, a été racheté par la Chambre des Huissiers, qui en possède toujours une partie d'ailleurs, le long du Palais Royal. Et il a été fermé pendant presque un demi-siècle, et le renouveau est venu au lendemain de la guerre de 39-40-45, lorsque Raymond Oliver l'a repris, l'a racheté, et en a fait une table énorme, considérable. Ce personnage était truculent, cultivé, excellent cuisinier, ouvert sur le monde, le terroir, enfin bon, un bonhomme fantastique.
C'est le Raymond Oliver qui a popularisé aussi la cuisine à la télévision ?
Bien sûr, oui. C'est lui qui est le premier en 1953, l'année où il a eu sa 3 étoiles au Michelin, a commencé les premières émissions qui ont duré, je crois, 13 ou 14 ans. C'était avec Catherine Langer. À une époque, il arrivait à faire tenir le soir les familles, alors que la télé n'était qu'en noir et blanc. Hein, donc Cocteau disait de lui l'homme qui a fait reculer l'ouvre-boîte. Formidable. Alors, il parlait du lapin. Le lendemain, les ménagères se précipitaient chez leur boucher. Acheter du lapin, du riz de veau, des tas de choses comme ça. Et Cocteau encore dit c'est un homme qui, lorsqu'il casse trois œufs, signe une omelette. Bon, c'est le discours. La gastronomie aime bien les anecdotes.
Oui, mais c'est de l'art aussi, la gastronomie.
Oui, bien sûr. Oui, mais c'est pas moi qui vais le nier. Évidemment.
Jean-Claude Ribaud, vous parlez du lapin, là, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en mange un petit peu moins. Il y a des mets comme ça qu'on consommait beaucoup avant et qui ont disparu des restos. Je pense par exemple au gibier ou au pâté, aux terrines, par exemple.
Oui, et c'est bien dommage, parce que la terrine est un produit magnifique. Alors, le gibier... Je trouve qu'il y a un renouveau du gibier. Il y a quand même un renouveau de l'intérêt pour le gibier, indépendamment de la croisade qu'ont entamée Michel Guérard, Alain Ducasse et autres pour essayer de commercialiser au moins et d'autoriser la chasse au moins et de commercialiser la bécasse ou les ortolans peut-être pendant un jour ou deux par an, de façon à ce que, ne serait-ce que les jeunes cuisiniers aient l'occasion de travailler au moins une fois dans l'année ou dans leur vie ce produit qui est l'un des plus fins, l'un des plus exceptionnels de la gastronomie française. Je pense la bécasse en particulier, l'ortolan, c'est autre chose. Alors, des choses qui disparaissent, oui, il y a des modes. Autrefois, la morue était un produit commun, aujourd'hui, c'est devenu extrêmement cher. Bon, des poissons comme ça qui disparaissent, qui reviennent. Mais le gibier, bon, continue quand même d'exister, pas mal. Alors peut-être moins dans les familles, parce que il y a eu un oukase qui a été lancé par Goemio dans les années 1970, qui disait plus de marinade, plus de sauce. Bon, s'il y a plus de sauce, il y a plus de cuisine française. C'est ce qu'a compris Yannick Aleno, qui vient de relancer une nouvelle manière de les approcher, de les faire. Et je crois que c'est salutaire. Voilà.
Mais là, vous nous citez quelques noms de grands chefs. Il y a des lieux où on peut très bien manger ou bien manger pour pas cher à Paris ?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Par exemple ?
Il y a un principe simple qui est que je dois, j'en ai fait ma religion, si je puis dire. C'est Montalban, un écrivain espagnol, qui dit manger ou ne pas manger est une question d'argent. Mais bien manger ou mal manger est une question de culture. Bon, c'est vrai qu'on peut faire extrêmement simple avec de très bons produits, les préparer simplement et faire quelque chose de délicieux. C'est pas forcément des choses extraordinaires. Moi, j'ai aussi du plaisir à aller dans un bistrot, un boui-boui même. Il y en a un qui est complètement emblématique, dans lequel m'a emmené un jour un contremaître du bâtiment, rue du Mont-Abord. Vous voyez où c'est juste derrière le Meurice, à côté de la place Vendôme. Rue du Mont-Abor, il y a un bistrot qui s'appelle Au Petit Bar. Et ben, il y a plateau de charcuterie pour 9 euros, des omelettes, des terrines maison qui sont faites. Le papa avéronais est au bar. La maman tient la cuisine, le fils sert dans la salle. Et ça marche, c'est formidable. Bon, alors c'est tout simple, mais c'est bon. Alors sinon, il y a les bistrots, la théorie des bistrots qui est autour du bistrot Paul Bert, qui est un peu le chef d'escadrille des bistrotiers parisiens et qui est
dans le 11e arrondissement, magnifique.
Oui, rue Paul Bert, formidable. Le Baratin, qui est un autre bistrot des Hauts-de-Belleville, bar à vin également, enfin pas bar à vin, mais bistrot à vin.
Vous avez aiguisé nos papilles, Jean-Claude Ribon. On va continuer de se balader avec vous parce qu'on n'est pas rassasiés, on a pas mal aux pieds encore. On va continuer
nos pérégrinations
et puis une petite écharpe rayée bleue. Nos pérégrinations dans Paris sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On découvre Paris, ses bistrots, ses meilleures tables avec le gourmet Jean-Claude Ribaud dans votre voyage à travers les bonnes adresses parisiennes d'hier et d'aujourd'hui. Moi j'ai envie de savoir, tiens, en ce moment là, en ce mois d'octobre 2014, le grand chef à découvrir à Paris, si on a les moyens, c'est qui ?
Je crois incontestablement parce que il vient de se réinstaller après avoir connu une petite traversée du désert. C'est Yannick Aleno chez Le Doyen. C'est tout près d'ici, en plus, vous pouvez y aller à pied. Donc,
dans le 8e arrondissement.
Bon, alors évidemment, ça n'est pas donné, mais il est en train de mettre au point et je crois de redéfinir une cuisine assez nouvelle. C'est pas le mot parce que en cuisine, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de nouveau. La création, bon, c'est un mot qui me semble un peu suspect, mais recréation, oui, tous les jours. Ils sont obligés de refaire tous les jours et d'être au niveau de l'excellence, si possible. Et donc, avec d'excellents produits et puis ce travail sur les sauces que j'évoquais tout à l'heure, il est tout à fait en train de relancer une.
Et on a le produit dans l'assiette, c'est pas la cuisine moléculaire dont vous parliez rapidement tout à l'heure.
Cuisine moléculaire fait appel à des produits chimiques, qui est une de mes obsessions.
Aversion même.
Aversion, oui. Tout à fait, comme malheureusement ce que l'on voit de plus en plus. Alors là, pour mettre en garde vos auditeurs sur l'emploi de l'huile de truffe ou des sprays au parfum de truffe.
Parce qu'en fait, il n'y a pas de truffe dedans, c'est
Non, c'est des produits chimiques. C'est un produit de synthèse. Et ça, c'est épouvantable. Moi, ça me saisit le palais, ça me bloque l'estomac. Et en plus, c'est uniquement destiné à mettre un zéro de plus sur l'addition. C'est absolument scandaleux.
Mais on en trouve dans les supermarchés aussi, c'est vrai, l'huile de truffe. Et c'est tentant parce que c'est un peu produit tellement cher qu'on a envie d'y goûter, nous aussi.
De plus en plus, alors que la réglementation est assez précise en principe, mais c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment remettre à l'ordre du jour. Ça.
C'est facile à détecter sur l'étiquette, par exemple. Non, quand on a, on peut savoir qu'il n'y a pas de la truffe au départ.
Il y a un décret qui est paru il y a quelques années, qui est assez précis, mais qui mériterait d'être mieux expliqué et observé.
Vous avez été chroniqueur gastronomique pendant 20 ans au journal Le Monde, Jean-Claude Ribaud. Vous avez vu l'évolution de cette gastronomie française ou parisienne. Il y a une évolution aussi qu'on note, ce sont ces restaurants par exemple sans gluten ou les restaurants donc sans farine de blé ou les restaurants pour végétariens. Vous pensez quoi de cette vous y avez mis les pieds, vous avez goûté, pour vous c'est de la gastronomie?
Oui, bien, ça peut être de la gastronomie, ça ne l'est pas toujours au quotidien, mais il y a incontestablement une influence anglo-saxonne qui se manifeste, ne serait-ce que par le nombre des touristes anglo-saxons qui viennent chez nous. Il y a un petit effet de mode aussi autour de ça, je pense. Mais celui qu'on a présenté comme le pape de la cuisine végétarienne, en réalité, n'est pas du tout végétarien, c'est Alain Passard. Il a simplement banni de sa carte au moment de l'épisodie de la vache folle, la viande rouge, mais il continue à servir des poissons, des œufs, des crustacés, de la volaille, des pigeons. Donc,
le nom de son restaurant, c'est l'Arpège.
Rue de Varenne. Et c'est une.
Ça fait rêver tout ça.
Très bien.
Ça fait rêver.
Ah ben, la gastronomie doit faire rêver. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi dépenser des sommes invraisemblables, etc.
Qu'est-ce qu'il faut lire? Qu'est-ce qu'il faut? Où il faut aller regarder? Comment faire pour trouver une bonne table? Alors, chère ou pas chère? Comment on se renseigne?
Alors, en lisant mon livre, d'abord.
Je vous ai un peu tendu une perche, elle était un peu grosse, mais oui, bon. Voyage d'un gourmet à Paris.
Oui, absolument. 19 euros.
Vous y allez, vous avez le nombre de pages aussi ou...
328. Oh. Non, mais au-delà de cela, bon, il y a les guides traditionnels, de moins en moins, mais le Michelin, en France, du moins, reste... une référence, moins, non pas tant nécessairement pour ces tables étoilées, qu'aussi pour les bibes gourmands, qui sont des indications souvent précieuses, de bonnes tables, de gens qui font des efforts et qui restent dans des zones de prix plus accessibles. Il y a le bouche à oreille qui est très important. Vous avez un copain qui aime bien, c'est etc., vrai, et qui vous dit ah, il faut y aller, etc. Bon,
c'est moi, un plaisir de faire découvrir une bonne table à un copain.
Moi, je me suis fait un petit carnet de bouche à oreille d'ailleurs.
Mais bien sûr. Moi, je fais aussi comme ça. Je donne des infos et puis on m'en donne. J'en ai encore aujourd'hui un ou deux qui me dit il faut absolument que tu ailles à l'ancien Dominique Rubréa, par exemple, qui a une cave et qui est une très belle petite maison. Donc, les guides. Alors, je suis un peu suspect. Quant au site spécialisé dans le TripAdvisor ou des choses comme ça, parce que bon,
c'est l'expérience de chacun.
C'est un peu bricolé, je crois.
Bon, en tout cas, on peut vous lire Voyage d'un gourmet à Paris de Calman Levy. C'est de la gastronomie, de la littérature. C'est absolument passionnant. On peut se balader à Paris avec votre guide sous le bras. Merci Jean-Claude. Votre guide, donc votre livre déjà. Et merci Jean-Claude.
Merci beaucoup.
J'ai trop salivé.
Vous écoutez RTL.